Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.
La problématique de la surpopulation carcérale de Makala, cause et solution. De janvier à février de cette année, on dénombre 70 morts à la prison centrale de Makala selon la Fondation Bill Clinton pour la paix. Ces décès seraient liés, d'après toujours cette ONG, à l'étouffement et aux mauvaises conditions de détention. Nous avons visité la prison pour nous en rendre compte. En dépit des nourritures qui ne sont plus en rupture, depuis maintenant une année, les damnés de la justice sont mal soignés. Meurent étouffés et abandonnés. Construite pour une capacité de 1500 détenus, c'est environ 12 000 pensionnaires qui occupent aujourd'hui ces pénitenciers dans des conditions infrahumaines.
À quoi est due cette surpopulation carcérale? Pourquoi les désengorgements ne résolvent rien? De quoi meurent les prisonniers? Quelles en sont les responsabilités et la solution?
C'est la problématique que décortique le magazine de promotion de vos droits et devoirs avec des experts pénitentiaires, avocats et magistrats à la retraite.
Droit et citoyenneté est coordonné par Jeff Ngoï Moulonda et présenté avec Niclette Kayeye.
Sous la supervision de Jean-Marc Matouakino Felele. Bienvenue à tous.
La problématique de la surpopulation carcérale de Makala, cause et solution. Pour commencer, je vous convie à suivre l'analyse de cette surpopulation, ses causes et les solutions préconisées par Emmanuel Kolé, président de la Fondation Bill Clinton pour la paix, habitué à monitorer la situation de nos prisons. Le président des experts pénitentiaires, Maître Désiré Simbi, ainsi que Maître Peter Ngomo, avocat au barreau de Kinshasa Gombe.
Les procédures judiciaires est trop lent. Donc, il faudrait mettre la pression sur le magistrat. Surtout, certains magistrats et disciplinaires qui détiennent des dossiers sans fessé à la cour et tribunaux. En plus, nous avons constaté que dans le haut sommet, le cour constitutionnel, le cour de cassation, qui devait donner l'exemple et aussi faire traîner le dossier, ils ne respectent pas les délais de véridique. Si ils ne respectent pas les délais de jugement ou bien de prononciation de jugement, comment voyez-vous de donner l'ordre à la cour d'appel et le cour et tribunaux. Donc, dans cet niveau-là, c'est ça que c'est beau. Comme vous savez, dans la prison des DC, il y a trop de détenus que de condamnés. Je donne l'exemple à Makala. Sur 10 790, nous avons seulement 2004 qui sont condamnés. Donc, constatez-vous que 80% ils sont des détenus préventifs. Il faut faire quoi? On doit mettre la pression sur le magistrat parce que ce sont les parquets qui arrêtent et les parquets qui libèrent. Donc, s'il y a détention irrégulière, c'est le parquet qui est responsable. En plus, nous avons le pavillon 7 qui devait être réhabilité. C'est fait aujourd'hui un an, cette traîne. Nous avons le pavillon 6 qui a un mauvais état. Pavillon 6 B est en mauvais état. Lorsqu'il y a la prohibition, il faut rapidement réhabiliter les deux pavillons, pavillon 6 et pavillon 7. Bien que son excellence, monsieur le président de la République, avait réhabilité pavillon 11, mais là aussi, pavillon 11B s'est surpopulé. Les malades qui étaient au pavillon 7, ils sont transférés au pavillon 11B. Et en tout cas, surpopulation partout. Lorsqu'on parle de mort quotidienne, c'est grâce à surpopulation et l'étouffement. Comme vous savez, les prisonniers peuvent bien manger, peuvent bien soigner, mais lorsqu'il y a l'étouffement, il est impossible de résister. Donc, le problème majeur des prisons en RDC, c'est la surpopulation et l'étouffement. Donc, l'État doit faire l'effort de construire les autres bâtiments et aussi de dégorger les prisons, les dossiers banals, les cas banals. Il y a le cas qui on peut résoudre ça au niveau du parquet, mais le parquet préfère toujours envoyer en prison. Cela aussi lié à la caution de liberté provisoire. Alors que cette caution-là, selon les DGRAT, les magistrats versent que 20 dollars. Quel que soit le son péché, et le reste, ça va où? Point d'interrogation.
Moi, c'est Maître Simbi Désiré Tchambali. Je suis expert pénitentiaire par rapport à toutes vos questions. Et la première, c'est les problèmes de la surpopulation, c'est-à-dire les problèmes d'effectifs des détenus par rapport à l'espace qui était prévu. Comme tout le monde le sait, la prison centrale de Makala, créée vers 1958, avait une capacité de 1500 détenus. Mais aujourd'hui, la même prison, avec cet espace, détient 12 000, environ 12 000 détenus sur cet espace de 1500. Et cela veut dire que les taux d'occupation varient entre 800 et 803 % d'occupation, donc au-delà de 800% d'occupation, c'est-à-dire que pratiquement on n'a pas d'espace même pour dormir. Et je pense que les techniciens en matière d'architecture, si ils sont là, je pense qu'ils peuvent bien tracer comment les gens peuvent dormir ou bien et comment on peut gérer cette prison. C'est dire que actuellement, même si on amenait un extraterrestre comme directeur et lui donnait tous les moyens, il ne saura pas gérer cette population d'une manière orthodoxe ou bien conformément aux règles internationales et nationales en matière de détention. Que donc, je sais que les responsables actuels de Makala ne dorment pas parce qu'ils doivent réfléchir comment ces gens vivent, mais aussi comment je dois gérer les conditions minimales, parce que je le connais bien, c'est un expert pénitentiaire aussi de haut niveau, par expérience, puis nous nous connaissons très bien. Je sais qu'il doit avoir beaucoup de difficultés, et surtout au niveau même psychologique, de comment vraiment gérer ces gens, et même si on lui donnait tous les moyens, même si vous avez des matelas et des lits, d'ailleurs les lits encore occupent de l'espace, comment il peut gérer une telle population? Donc, la première cause profonde, c'est l'absence d'une politique carcérale, d'une politique criminelle, l'absence d'une politique pénale pour gérer les détenus et les maisons de détention. Là, c'est d'abord la première chose. C'est-à-dire qu'il y a une absence d'un cadre juridique efficace pour la gestion des établissements pénitentiaires. Lorsque vous vous promenez dans l'ordonnance 344, vous allez comprendre qu'il y a des articles qui définissent des établissements pénitentiaires, mais dont les définitions ne sont pas vraiment claires pour que l'on puisse établir la typologie réelle des établissements pénitentiaires, notamment ceux-là qui doivent contenir seulement les condamnés et ceux-là qui doivent juste garder les prévenus ou les inculpés à un certain moment. C'est ainsi que, par exemple, sur le territoire national, il est difficile, monsieur le journaliste, de me montrer une maison d'arrêt. Et je crois que tous les magistrats du ministère public sont en train de me suivre. Et je ne sais pas qui va me désigner que voilà, dans telle province, il y a une maison d'arrêt ou bien il y a deux maisons d'arrêt pour que l'on puisse donc respecter les cadres. Donc, il existe un problème du cadre juridique qui doit être revu pour que l'on puisse arriver vraiment à gérer. Et non seulement ce cadre juridique devait déterminer la typologie, mais aussi devait déterminer le cadre du fonctionnement pyramidal de l'administration pénitentiaire. La structure aujourd'hui est biaisée, parce que lorsqu'on voit l'ordonnance 344, on se rend compte qu'au niveau national, on a un directeur des services pénitentiaires et qu'au niveau provincial, on a un inspecteur provincial. Mais plus tard, nous avons constaté que non, il y a des chefs de division qui jouent déjà ce rôle au niveau provincial et on se demande c'est quelle structure. Mais dans cette politique, on trouve aussi qu'en RDC, l'administration pénitentiaire, c'est un monstre à double tête. D'une part, on a l'administration pénitentiaire civile qui dépend du ministère de la Justice, et de l'autre côté, il y a une administration pénitentiaire militaire qui dépend du ministère de la Défense. Ce qui crée un conflit entre les personnels actuellement, lorsqu'on voit des directeurs avec à côté des chefs, les commandants des quartiers militaires qui se prennent pour des directeurs ou bien des directeurs adjoints, qui parfois même veulent gérer les quartiers militaires dans la même prison en privant les directeurs qui est responsable responsable de l'établissement de toutes les informations. Donc tout ça, c'est un problème qui se pose au niveau de la politique. Qu'est-ce qu'on définit là-bas comme droit des détenus? Comment on doit gérer les mouvements entre les établissements pénitentiaires et les institutions judiciaires? Ce qui fait qu'il y a trop de problèmes et des détentions préventives et prolongées.
Parmi les causes, c'est d'abord la lenteur dans le traitement du dossier. On le sait tous très bien. Le pouvoir qu'a le magistrat, il peut instruire un dossier, il peut arrêter et autres. Mais le tout s'est fait dans des délais bien déterminés par la loi. Vous imaginez que dépasser 3 mois, un magistrat devrait fixer le dossier. Mais des fois, il ne fixe pas. Et des fois même, il arrive à l'oublier de faire passer les gens qu'il a mis en détention devant les chambres du conseil pour régulariser leur détention. Tout l'arbitraire commence par là. Et même deux fois, si vous allez un peu plus loin, c'est demander, oui, c'est qu'elle se trouve en prison, mais pour quel fait? Mais des fois, c'est pour des faits bénins. Des fois, même pour l'histoire des dettes qu'on transforme en abus de confiance, mais des dettes au départ. Ce qui est même contraire à la loi, même c'est un principe universel, qu'il n'y a pas de prison pour dette. Tout ce que nous pouvons demander, c'est au chef d'office, des procureurs, de veiller sur la régularité des détentions. C'est vraiment très important. Mais également, l'inspectorat des services judiciaires qui descendent à Makala à le vérifier. Malheureusement, ces descentes-là sont devenues un peu rares. Aujourd'hui, les magistrats se prennent entre guillemets pour des petits dieux, ils peuvent t'arrêter, te priver de ta liberté comme ça. Mais regardez les conditions. À Makala, où vous entrez comme prévenu, vous sortez demain comme condamné et autres, mais qu'est-ce que vous aurez appris à prison? Rien. Même en termes de l'éducation, rien.
Donc vous sortez comme vous êtes entré, il semble même, que même vous, vous en sortez.
Même qui, plus que ça, parce que vous allez apprendre bien des choses. Ces Kulunala et autres, ils apprennent encore beaucoup de techniques en prison. Ce qui est malheureux quand même. N'est-ce pas? Donc, moi, je responsabilise les magistrats. Ils doivent se placer dans la même situation que ces gens-là. Mais ce sont des humains comme nous. Parce que je me dis quand même que lorsque vous arrêtez quelqu'un et vous oubliez de régulariser sa détention, je ne sais pas si tu as suivi, il y a un moment ici, il y a quelques magistrats qui sont partis quand même en prison pour essayer de voir comment fonctionne la prison. Il y avait 25 magistrats. En plus, c'est mal d'expérience. Mais comprenez d'abord le nôtre aussi. Qu'on choisisse même des forces là, qui aillent à Makala même pendant une semaine. On verra dans quel état ils vont sortir.
Et nous avons dans ce pays l'inspectorat des services judiciaires, l'inspectorat des services pénitentiaires aussi. C'est beaucoup de services. À quoi servent tous ces services face à une telle situation?
Ben, malheureusement, ils ne servent à rien parce qu'ils ne font pas le travail pour lequel ils s'y retrouvent. N'est-ce pas? Ils devraient suivre les magistrats pas à pas. Allez dans leur bureau, sortez-moi vos dossiers. Ces dossiers, c'est à quel niveau et autre. Si ces contrôles étaient réguliers, je ne pense pas qu'il y aurait beaucoup de gens en prison. Mais malheureusement, ils vont vous dire qu'il n'y a pas suffisamment de frais et tout ça. Mais c'est tout ça le problème. Mais en attendant, il y a des gens qui sont arrêtés chaque jour, il y a des gens qui meurent. Allez même dans nos commissariats ici et autres. Mais vous allez toujours trouver des pléthores de gens qui vous font une semaine, alors que la Constitution a déjà dit la durée de la garde à vue, c'est 48 heures. Mais allez au niveau des pays crimes, allez dans d'autres, vous trouvez des gens qui ont fait une semaine, mais moi, ils sont là. Mais tout ça pourquoi? Parce que les magistrats ne contrôlent pas les amigos et parce que aussi l'inspectorat des services judiciaires ne contrôle pas aussi les magistrats. Donc franchement, nous trouvons dans la jungle. C'est la loi du plus fort, puisque le magistrat c'est le plus fort. Mais voilà, vous avez suivi la vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux. Un magistrat qui se permet de torturer
une fille.
Mais on est où là?
Une fille qui n'est pas concernée par le mandat d'amener.
Vous imaginez? Non, ça n'est de trop. Et là également, nous interpellons le magistrat suprême.
Boy.
Maître Simbi Désiré revient sur la capacité du ressort de la prison centrale de Makala. De quel ressort réellement devait dépendre cette prison, quitte de son cadre juridique et de la politique carcérale de la RDC?
L'élément aussi profond, c'est la capacité du ressort de la prison de Makala. La prison de Makala, selon l'ordonnance 644, l'article 5 définit le ressort d'une prison centrale. C'est que le ressort, c'est le ressort de la cour d'appel. La cour d'appel qui se trouve, dont la prison de Makala se trouve sur son ressort, c'est la cour d'appel de la Gombe. Il faudrait une autre institution pour que l'on puisse désengorger cette prison. Notamment, nous avons la cour d'appel de Matete, qui devrait avoir aussi sa prison centrale, ce qui allait désengorger immédiatement. Et lorsque vous examinez les détenus qui sont à la prison centrale de Makala, vous allez trouver que cette prison reçoit des détenus d'environ 30 juridictions et parquets. Donc, toutes ces institutions envoient Makala comme si on envoyait dans un dépôt. Ce qui fait que la surpopulation carcérale provient aussi de toutes ces institutions. Or, l'autre cause à souligner, c'est le dysfonctionnement des institutions judiciaires, dans ce sens-là que les actes ne sont pas toujours régularisés, même si souvent le magistrat peut aussi émettre des actes de régularisation. Parfois, les services administratifs des parquets et des juridictions ne sont pas souples ou n'ont pas de moyens pour faire parvenir ces actes à la prison. C'est que les détenus restent longtemps en prison. Conséquence alors, c'est quoi? C'est que la conséquence réelle, ce sont des maladies qui s'abattent sur les détenus, notamment les maladies des mains sales, telles que choléra et d'autres maladies diarrhéiques. Il y a le problème d'étouffement qui amène des maladies comme la tuberculose, comme l'asthme, comme d'autres maladies, notamment maladies de la peau. Et sans oublier aujourd'hui la question de malnutrition et dont l'achèvement, c'est justement le décès, la mort des détenus. Je ne reviens pas aux réseaux sociaux qui publient chaque fois des effectifs de détenus décédés. Je n'ai pas en tout cas l'intention ici de donner des chiffres qui ne sont pas vérifiés, mais les conséquences immédiates, ce sont là les décès, c'est l'achèvement de tout ce que je viens d'énumérer comme des causes. Mais ce qui nous intéresse peut-être à ce niveau aussi, c'est de voir maintenant qu'est-ce qu'il faut, quelle est la solution pour qu'on arrive. Évidemment, et c'est très important, comme j'ai souligné la première cause, il faut trouver la solution à la première cause, donc il faut la réforme. Il faut des textes clairs, notamment une loi sur les principes fondamentaux déterminant les régimes pénitentiaires dans lesquels on se trouve. Deuxièmement, il faut un décret de l'administration, disons, de mise en œuvre de cette loi en question. Et concrètement, il faut que l'on puisse arriver à bien définir les prisons, à bien définir la gestion de ces prisons. Il faudra donc un autre acte juridique ou un décret qui crée une direction générale de l'administration pénitentiaire. Cela permettra que cette institution puisse gérer totalement les prisons, et là je parle toujours de Makala, mais de toutes les autres prisons, il faudra qu'il y ait une institution qui soit plus ou moins autonome, qui puisse gérer les prisons, parce qu'aujourd'hui nous avons plus de 100 prisons. Si vous comptez au moins 100 personnels de chaque prison, il faut que vraiment une administration soit mise en place pour gérer. Parce que la prison, c'est une institution capitale, c'est une institution qui rentre dans les services de sécurité publique. Et que donc, il faut vraiment une gestion. Donc, il faudra que l'on puisse créer ça, que la gestion ne soit pas avec deux têtes, mais qu'on puisse avoir l'unification de l'administration pénitentiaire et qu'il y ait une institution, une direction générale qui gère la carrière du personnel, mais aussi qui gère les mouvements, les fonctionnements de ces institutions pour que les prisons soient productives et non consommatrices de budget. Je pense que là, ça serait la grande solution. Mais d'autre part, j'ai souligné notamment les problèmes de désengorgement, c'est que dans les jours qui viennent, il serait important, par exemple, de réhabiliter des bâtiments qui sont au camp de détention des Boulou dans le Katanga, dans le Haut-Katanga, pour permettre à ce que l'on puisse désengorger. Mais aussi, il y a de l'espace, notamment au camp de détention d'Ossio. C'est à la rive droite de la commune, disons, de la province de la Tchopo. Mais aussi, il y a de l'espace à Angenga, dans la Mongala, où on peut encore aussi avoir des espaces à réhabiliter juste certaines cellules. Donc, ce sont là des solutions immédiates, des solutions urgentes, en dehors des désengorgements par le nettoyage des registres d'écrou, par ces détentions préventives et prolongées. Il faut que les magistrats descendent là. Là, ça ne demande pas des années, ça ne demande pas des mois. Il faut que l'autorité politique puisse exiger aux magistrats de descendre, de voir tous les cas qui ont déjà dépassé le délai pour les libérer. Et là, ça va désengorger rapidement. Mais pour une solution aussi durable, il faudra une autre prison à Kinshasa. Et là, la prison doit être dans les ressorts de la cour d'appel de Matete pour que l'on puisse désengorger toutes les sentences ou bien désengorger Makala avec tous les dossiers qui concernent la cour d'appel de Matete. Et là, ça va directement peut-être même arriver à plus de 50% de désengorgement de cette prison. Je pense que à mon niveau, je sais que comme vous avez limité le temps, il n'y a pas assez de temps pour discuter de beaucoup de questions. C'est ça d'une manière ramassée que je voudrais juste répondre à vos préoccupations concernant la problématique de la surpopulation à la prison de Makala. Sans oublier que la gestion du personnel pénitentiaire est un élément important dans la gestion de cet établissement. Si on n'a pas d'effectifs suffisants à la prison de Makala, si les effectifs qui sont disponibles ne sont pas payés et ne reçoivent pas leurs primes régulièrement et une prime suffisante, on ne peut pas préserver les droits des détenus dans cette institution. Voilà un peu, en bref, ce que j'avais à vous dire. Et j'espère que prochainement, nous aurons assez de temps pour que l'on puisse discuter d'autres questions en profondeur ou bien que je puisse vous donner d'autres détails parce que j'ai été trop résumé pour que les auditeurs, que tout le monde prenne ses responsabilités. Et là, j'ai souligné les responsabilités de l'autorité politique pour que l'on puisse accélérer le processus de la réforme, mais aussi qu'on puisse voir quelles sont les actions à poser et rapidement pour que cette prison ne puisse pas être un mouroir, mais un centre de rééducation réellement, et remplir la mission d'une prison qui est la garde dans la bonne sécurité et de bonnes conditions, et deuxièmement, provoquer l'amendement après la durée de détention.
Parce que chaque citoyen a des droits et devoirs. Radio Capi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques, nous en parlons dans votre magazine. Mieux connaître vos droits pour bien défendre, mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Retrouvez Jeff Ngoyi tout le mardi.
La problématique de la surpopulation carcérale de Makala, cause et solution.
Nous en parlons avec le magistrat émérite Nicolas Kedishimba. De plus en plus, les magistrats sont accusés de surpeupler cette prison en y envoyant des gens, sans envoyer en fixation certains dossiers, sans organiser des procès. Est-ce que les magistrats sont devenus des électrons libres? N'y a-t-il pas un mécanisme de contrôle du travail des magistrats? Que prévoit la loi en cette matière?
Oui, ma réaction c'est celle-ci. On a toujours tendance à condamner le magistrat, mais on ne tient pas compte de la réalité des choses. Cette prison était construite pour 1500 personnes, mais aujourd'hui, elle contient plus de 11 000 personnes. Et une prison digne de ce nom ne peut pas être en plein centre-ville comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, il y a aussi la part de l'État congolais il y a aussi la part du magistrat. Et je veux parler sans complaisance. Aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est le problème de l'encadrement effectif du magistrat et des conditions du travail du magistrat. Vous savez, à l'époque, quand un magistrat recevait les dossiers, un dossier judiciaire, avant d'arrêter, quand il estimait que les conditions d'arrestation étaient réunies, il faisait rapport à son chef, le procureur de la République, qui ordonnait l'arrestation. Et quand le magistrat arrêtait, il arrêtait seulement pour 5 jours. Alors, au bout de 5 jours, il devait présenter le prévenu en détention préventive en chambre du conseil, donc devant le juge qui devait vérifier si les conditions de détention, de mise en détention, étaient réunies. Et le juge, de son côté, devait, s'il estimait que ces conditions étaient réunies, il ordonnait la mise en détention préventive pour 15 jours. Si au bout de 15 jours, le magistrat du parquet n'a pas terminé son enquête, il présente encore les prévenus devant le juge pour obtenir la confirmation de la détention. Alors là, le juge qui estime que les besoins d'enquête exigent qu'on garde les délinquants en détention, ordonnait confirmer la détention par une ordonnance de confirmation. Et ça devait se faire comme ça pendant 3 mois. Si au bout de 3 mois, le magistrat du parquet n'a pas terminé l'instruction et n'a pas fixé le dossier, le juge qui recevait le dossier en chambre du conseil devait automatiquement ordonner la libération du détenu. Alors maintenant, s'il y a des dérapages de 1, c'est parce qu'il y a aussi certains magistrats, certains hommes qui ont connu des promotions à cause, pour des raisons que nous ne connaissons pas et qui ne savent même pas pourquoi ils sont là. La deuxième raison, il y a des magistrats, des procureurs de la République qui se retrouvent avec plus de 60 magistrats à gérer. Comment il va gérer tous ces magistrats? Quand vous allez à l'intérieur, vous ne trouvez pas autant de magistrats. Mais allez dans un parquet de Matete, de Kalamu, de la Gombe, dans un tribunal de paix, vous trouverez même des magistrats sous les arbres. Le suivi du travail de tous ces magistrats devient compliqué. Ben, dans des conditions normales, le procureur de la République doit suivre l'instruction de chaque dossier dans le cabinet de chaque magistrat. Et chaque magistrat, à la fin de chaque mois, doit faire un rapport sur l'état de son cabinet. Le dossier avec prévenu en détention, combien de temps ils ont fait dans son bureau? S'ils ont fait plus de mois, pourquoi ils ont fait plus de 3 mois? Et le procureur de la République, s'il trouvait que les raisons avancées par le magistrat n'étaient pas convaincantes, devait prendre des dispositions pour sanctionner ce magistrat.
Et pourquoi cela n'est toujours pas fait? Et on se retrouve à plus de 12 000 prisonniers.
Vous, peut-être, vous êtes allé vérifier. Moi, je ne suis pas allé vérifier, mais je vous dis ce que je sais. Il faut aussi reconnaître que tous ces procureurs, ils ne disposent pas de moyens nécessaires pour suivre tous ces magistrats. Mais en principe, les procureurs de la République doit vérifier. Il doit suivre la situation du cabinet de chaque magistrat. Et le procureur général qui reçoit le rapport fait par le procureur de la République doit aussi vérifier. Ensuite, il y a aussi les inspections que les magistrats effectuent à la prison pour voir combien il y a de prévenus en détention préventive et combien sont encore à la disposition du parquet et qui sont à la disposition du tribunal. Et on fait le rapport, on transmet à qui de droit. Et je me demande bien si ces rapports sont toujours faits. Et si ces rapports sont toujours faits, le procureur général fait l'inspection. Et quand on fait le rapport d'inspection, on adresse au président du Conseil supérieur de la magistrature, au ministre de la Justice, hein, à toute la hiérarchie judiciaire. Hein, ce qui fait que tout le monde est au courant, doit être au courant de la situation pour prendre des dispositions qui s'imposent. Évidemment, le ministre, quand il les reçoit, parce que c'est le ministre qui gère toutes nos prisons, les services pénitentiaires relevant de ses attributions. Quand il les reçoit ça, c'est lui maintenant qui doit poser le problème au gouvernement, poser le problème au Conseil supérieur de la magistrature pour dire qu'il y a des failles dans le chef de magistrat ou il y a des failles dans le chef du gouvernement. Donc, vous comprenez, il y a un travail de sape qui doit être fait. Et pour que le magistrat fasse ce travail, moi je suis parmi ceux qui s'opposent à la formation bidon qu'on organise. On dit on va former le magistrat pendant un temps. Ça c'est pour faire des dépenses inutiles d'argent. Le droit, c'est une science parce qu'on apprend. C'est un art qui se pratique et qui se vit au jour le jour. Moi, je termine le droit, j'ai eu une bonne formation, mais je dois parachever ma formation par la pratique, par un stage. Je dois être suivi au jour le jour par des magistrats plus chevronnés que moi, qui vont me montrer même comment on interroge, comment on rédige une note de classement, comment on rédige un réquisitoire, comment on fait une requête. Au fin de fixation, comment on libère les préventions. Donc, je dois être formé par d'autres magistrats. L'INAFORGE, l'institut qui est là-bas, moi je la conçois comme un cadre de renforcement des capacités. Comment pouvez-vous expliquer que tous ces magistrats, tous ces jeunes gens ont été formés à l'université? Ils quittent pour entrer dans la magistrature, ils doivent encore être formés. Par qui? Par le même professeur, ou bien les professeurs là reconnaissent qu'ils ne dispensent pas la formation qu'il faut au futur magistrat, ou par les autres magistrats. Mais cette formation, on peut dispenser l'état de toutes ces dépenses-là et donner cet argent aux chefs d'office et des juridictions pour qu'ils puissent faire les inspections nécessaires, qu'ils puissent suivre le magistrat dans l'exercice de leurs fonctions et qu'ils puissent prévenir parfois certaines failles. Alors, vous m'avez demandé pourquoi les dossiers ne sont pas fixés à temps. Non, si les dossiers ne sont pas fixés à temps, moi je dis toujours, il n'y a pas de mauvaises troupes, mais il n'y a que de mauvais chefs. Et j'ai dit toujours que, aujourd'hui, la magistrature peut être redressée en moins de 6 mois. Ça, je le développerai dans une émission qui pourra nous prendre même 3-4 semaines. Et je le fais déjà dans les livres que je suis en train d'écrire. Vous savez que, si le chef est sanctionné pour les fautes commises par ses subalternes, voudra-t-il être tout le temps sanctionné à la place des autres? Je ne le crois pas. Quand un magistrat reçoit le dossier au parquet, il ne doit pas faire plus de 2 mois, de 3 mois avec le dossier. Il a mené l'enquête pendant au moins 1 mois. Il le termine, il fait son réquisitoire et il envoie chez le procureur de la République parce qu'il estime que ce dossier ne peut se terminer qu'au tribunal. Le procureur de la République rédige la requête en fin de fixation qui saisit le tribunal, et le dossier va au tribunal. Pourquoi les dossiers doivent traîner au parquet? Et c'est quelque chose, c'est une situation à vérifier.
Jérusalem, Ikayalami. Ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawu yami alikolana. So I'm a ali kolana buso wami au kolana kilo noloze
problématique de la surpopulation carcérale de Makala, cause et solution. Nicolas Kedishiba.
Même au tribunal, quand le dossier passe, le juge ne doit pas faire beaucoup de remises, surtout en matière pénale. Là aussi, il y a la part de l'État. Vous savez, quand on a créé le corps des huissiers de justice, je me suis dit que les choses allaient bien marcher. Mais non, c'est pas ça. Parce que ces gens, ils cherchent maintenant des dossiers qui sont juteux. Or, ils doivent travailler avec le concours du président du tribunal, du greffier, du visionnaire qui connaît toute la situation du greffe et qui doit donner les dossiers qui sont déjà terminés. Mais, et cela allait aussi alléger la tâche des greffiers qui n'auront plus à aller signifier des jugements ainsi de suite. Et à s'occuper de l'exécution parce que les huissiers sont là. Mais on dirait que les choses ne marchent pas. Or, ce qui se passe en réalité, les greffiers préfèrent s'occuper des affaires civiles qui leur donnent suffisamment de moyens que des affaires répressives. Il faut aussi que l'État puisse mettre de moyens à la disposition de nos greffiers pour leur permettre d'aller instrumenter les exploits de justice, de préparer l'audience. L'audience se prépare en amont. Parce que tout ce qui va se faire à l'audience, le greffier doit l'avoir préparé avant. Même les avocats aussi. Mais aujourd'hui, vous voyez un avocat qui vient à l'audience, qui n'a même pas lu le dossier. Alors, si le greffier a les moyens, il instrumente, toutes les parties sont saisies, le tribunal est saisi, il interroge les gens, les juges interrogent les gens. S'il y a des témoins à entendre, on entend les témoins, et dans moins d'un mois, deux mois tout au plus, le juge aura tranché, il aura terminé. Mais si vous allez dans nos greffes, vous trouverez qu'il y a des juges qui gardent le dossier pendant des années. Et on oublie même quelqu'un en détention. Quand le président voit ça, il doit sanctionner. Alors maintenant, j'aborde aussi la part de ceux qui gèrent les prisons, les gardiens des prisons. Est-ce qu'ils respectent les conditions requises pour recevoir un individu quand il va à la prison? N'importe qui ne peut pas mettre les gens à la prison. Il faut les documents du magistrat du parquet. Et il faut, pour mettre, arrêter quelqu'un qui est condamné et le garder, il faut qu'il y ait la réquisition en fait d'emprisonnement qui vient du procureur. Donc, on ne peut pas recevoir n'importe qui et tous ceux qui le reçoivent là-bas. Quand ils constatent que la situation de telle ou telle personne devient irrégulière, ils doivent dénoncer. Est-ce qu'ils ont dénoncé? Ensuite, parce qu'aujourd'hui, vous allez me dire qu'il y a eu mort d'homme, oui. Mais ces gens-là ne sont pas morts le même jour. Mais quand la situation a commencé, ont-ils dénoncé? À ma connaissance, non. Ensuite, ils attendent qu'il y ait une ONG étrangère qui constate qu'il y a telle ou telle situation pour parler. Alors, maintenant, il y a la part de l'État. Mon cher ami, nous ne devons pas trouver... Il y a la différence entre maison d'arrêt et maison de détention. La maison d'arrêt, c'est quand le parquet arrête. Ces gens doivent être là pour être jugés. Quand ils sont jugés, ils entrent dans la maison de détention. Mais nos amis là, est-ce qu'ils savent comment vivre le magistrat qui va à l'intérieur? Parce qu'un magistrat qui part aujourd'hui, il est nommé, on lui dit, débrouillez-vous pour rejoindre votre poste. Non! Le magistrat a droit à un billet. Et quand il arrive là où il va, il a droit à un logement. Il n'y a même pas de logement.
Voilà qu'on a recruté plusieurs magistrats et plusieurs...
On ne les a pas encore recrutés.
Nouveaux, bon, qui attendent encore
d'être magistrats. Là aussi, il y a des problèmes.
Ça fait maintenant plusieurs mois qu'ils sont...
Nous en parlerons un jour.
Il y en a qui a meurent aussi.
Oui.
Mais apparemment, la justice ne fonctionne pas dans ce pays. Hein. C'est quelle justice on a dans ce pays?
Non, moi je dis que... Je dis ceci. Homo homini lupus. L'homme est un loup pour l'homme. Celui qui tue la magistrature, c'est le magistrat lui-même. Combien de fois les magistrats ont pu voir les autorités, les gouvernementales, le président de la République, le ministre de la Justice, pour lui présenter le visage réel de la magistrature aujourd'hui? Combien? Ils y vont pour leurs intérêts. Quand le magistrat tombe malade, qui détruit la justice et qui détruit ses collègues de service? Parce que le magistrat lui-même, il détruit l'autre. Il faut que nous commencions. Nous, le magistrat...
Il est devenu un électron libre.
Oui, non, il n'est pas un électron libre. Oui. Le problème, c'est que...
Quelles sanctions sont prises?
N'est pas...
Qu'est-ce dit la loi à propos d'un tel comportement?
Voilà.
Surtout lorsque on envoie des gens en prison sans envoyer leur dossier devant les cours des tribunaux pour être fixés.
Je
vous donne un exemple.
Oui.
Je suis arrivé à la prison, j'ai rencontré un monsieur qui a été détenu au cachot de Kinkole pendant plus ou moins une semaine pour une faute professionnelle qu'il avait commise. Alors, le magistrat qui l'a arrêté l'a envoyé à Makala, puisque le monsieur, d'après son témoignage, il n'arrivait pas à donner de l'argent au magistrat. Il dit alors, va souffrir à Makala, au pavillon 3, qu'on appelle le pavillon de la mort. La plupart des gens qui meurent à Makala viennent de ce pavillon. Il m'a expliqué les conditions de détention. Dans quelles conditions ils dorment? Ils passent une nuit à même le sol, superposés, il n'y a pas de matelas. Ils sont 850 dans un petit pavillon dont les dossiers ne sont toujours pas envoyés en fixation. Et je le vois avec des plaies, complètement maigris. Alors, il vient du cachot déjà moribond. Une fois arrivé à Makala, il ne va pas faire longtemps, il va disparaître.
Def, je vous dis un grand merci pour ce que vous dites. Je vous ai dit ceci. Des cas comme ça, même moi qui suis magistrat émérite, parce que je garde mon grade jusqu'à la fin de ma vie. Même moi qui suis un magistrat émérite, je ne peux pas le tolérer. J'ai dit ceci, le président du tribunal, s'il connaît réellement son travail, il va suivre l'état de chaque dossier. Et il doit sanctionner un magistrat qui garde le dossier pendant longtemps. Alors maintenant quand vous me parlez de quelqu'un qui a été au parquet, c'est la même chose pour les procureurs qui ne jettent pas un coup d'œil au cachot. Parce que quand on amène les gens au parquet, c'est pas pour qu'ils restent au cachot. Ils doivent être interrogés, toute affaire cessante, le même jour. Si on les a amenés peut-être très tard, le matin, le procureur de la République ou le chef du parquet, quand il s'agit de parquet près les tribunaux de paix, il prend connaissance du dossier et désigne un magistrat qui doit mener l'instruction du dossier. Et comme il a donné un travail à un autre magistrat, il lui appartient de suivre la tâche de son subalterne. Et le même jour, le magistrat là doit lui faire rapport. S'il n'a pas fait rapport, et si lui n'a pas réclamé le rapport, c'est que c'est lui qui devient fautif. Et là, à ce moment-là, il a commis une faute dans l'exercice de ses fonctions. Et si on le dénonce, le Conseil supérieur de la magistrature, qui est la juridiction disciplinaire de tous les magistrats, se saisit de son cas et lui applique les sanctions prévues par les statuts de magistrat.
Identité culturelle. La culture congolaise dans sa diversité et sa richesse a un rendez-vous sur Radio Capi. Identité culturelle aborde la culture et les arts sous toutes leurs formes. Gastronomie, littérature, les us et coutumes et tout ce qui peut redonner aux Congolais sa valeur identitaire. Identité culturelle, un magazine qui vous ressemble. Et trouvez toute l'équipe tout le samedi à 8h30. Le mardi à 14h15.
Droit
et citoyenneté.
Tous les magistrats sont régis par les statuts. Peut-être moi non, parce que je suis retraité. Je n'irai pas commettre de fautes de service. Mais celui qui est en service, le procureur de la République, qui n'a pas suivi son magistrat, il sera sanctionné, ainsi que le magistrat. Comme vous le dites, nous nous répondons. Tout le monde nous entend. Et je crois que ça doit cesser. Et moi, je demande à tous les procureurs de la République de veiller à ce qu'il n'y ait pas de cachots dans le parquet.
On ne trouve pas de toilettes dans des cachots.
Ah, et s'il y a...
Les gens dans des cachots, là, ils font leurs toilettes et leurs grands besoins dans
ça
des
ça ne peut pas se faire.
Quand vous y arrivez, ça sent l'urée. Hein? Quand vous arrivez dans des cachots là, qui se trouvent au parquet, vous sentez l'urée partout.
Non, mais ce sont des procureurs assassins. Parce que au parquet, nous n'avons pas besoin de cachots. Quand quelqu'un est arrivé la nuit, où nous le retournons d'où il vient, où on le garde au corps des gardes, là où se trouvent les policiers qui assurent la sécurité du palais de justice. Et le matin, on confie le dossier au procureur. Et l'homme ne peut pas faire 2 jours au parquet. Il est interrogé le même jour. S'il faut l'arrêter, on l'arrête. S'il faut le libérer, on le libère. Alors, s'il y a un magistrat, oui, je ne le nie pas. J'ai appris aussi ça. S'il y a des magistrats qui font ça, mais le magistrat aussi peut être arrêté. Il peut être arrêté pour traitement inhumain. Et la sanction, dans ce cas-là, est plus grave pour un traitement inhumain, pour un traitement dégradant. Ah, il faudra que le magistrat qui m'écoute le comprenne, qu'il dise pas le vieux parce qu'il n'est plus dans le corps. Non, moi je n'ai jamais fait ça. Quand quelqu'un est arrivé, vous le traitez dignement. Vous le traitez dignement. Même s'il fume, vous pourrez lui donner même une cigarette pour qu'il fume. Mais vous menez les investigations. L'instruction à charge et à décharge. Vous trouvez que les faits ne sont pas établis. Vous dites au procureur, monsieur le procureur, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Les faits ici ne sont pas constitutifs de l'infraction qui lui est imputée. Je propose qu'il soit libéré. Et le procureur va libérer, à moins qu'il estime qu'il y a d'autres éléments que moi, que le magistrat instructeur n'a pas pris en considération. Il dit non, allez vérifier, insister sur tel ou tel élément. Et après, le rapport est fait. Il peut être arrêté. S'il peut être arrêté, ok, on l'arrête. Et quand il est parti en détention, les dossiers avec prévenu en détention, ce sont des dossiers qui doivent être instruits avec priorité.
Avec diligence.
Et diligence. Donc, le magistrat ne peut pas se permettre de garder les dossiers. Il garde les dossiers pourquoi ? Aujourd'hui, on peut tout dire, mais le magistrat est quand même mieux payé par rapport aux autres fonctionnaires.
Mais pourquoi la justice
n'est pas bien payée ? Alors, maintenant, c'est question maintenant
bien payé, mais la justice mal administrée.
Que le magistrat soit suivi directement dans l'exercice de ses fonctions. Et que la sanction aussi existe.
Voilà ce qui tue ce pays, l'impunité.
L'impunité, voilà.
La problématique de la surpopulation carcérale à Makala, la plus grande prison qu'on a dans le pays, la prison centrale. Cause et solution, nous recevions le magistrat émérite Nicolas Kedishiba. Nous relevons les failles du fonctionnement de notre justice, notre appareil judiciaire. Nous retenons l'impunité qui détruit notre appareil judiciaire, l'inspection du travail des magistrats. Les responsabilités sont partagé entre les magistrats et l'État qui ne met pas les moyens qu'il faut, l'État qui ne construit pas assez d'infrastructures. Nous avons cette prison vieille qui a été construite pour une capacité de 1500. Aujourd'hui, on est à plus de 12 000. Ce n'était pas prévu lorsqu'on avait construit cette prison. Il faut peut-être multiplier de telles infrastructures et on ne peut pas envoyer quelqu'un en prison pour attendre d'être jugé. On y va pour purger sa peine. Voilà ce que nous retenons comme cause et comme solution. Il faut remédier à ces causes. Il faut répondre positivement à toutes ces failles, donc s'attaquer à toutes ces causes et on aura résolu le problème.
Oui, un dernier mot, c'est que j'invite le magistrat à ne pas arrêter pour le plaisir d'arrêter. On ne peut pas envoyer quelqu'un à la prison parce qu'il a tapé. Il faut qu'il y ait une gravité, il faut que les faits soient suffisamment graves, troublent l'ordre public et qu'ils soient punissables de plus de 6 mois de servitude pénale principale. Il y a des amis qui se complaisent à arrêter pour le plaisir d'arrêter ou par crainte de telle ou telle personne. Nous demandons aussi à toutes les instances de notre pays d'éviter d'influer sur les décisions judiciaires ou de chercher à faire motiver des arrestations qui ne se justifient pas par le magistrat.
Voilà. Droit et citoyenneté d'aujourd'hui est donc terminé. Merci de votre écoute et de rester branché sous la fréquence de la paix.
Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.